Vous écoutez
RMC.
Je voilà. précise, donc le PSG en parle tout à l'heure. Je précise Daniel. Que Paulo Breitner nous rejoindra dans quelques minutes également pour tout dire du match de Leipzig. Mais là, puisque nous avons Simone et Fred, on va démarrer sur donc l'Ajax de Bergame, mon petit Simone. Là,
c'est vrai, c'est vrai.
On peut le dire, comme le dit notre célèbre publicité, c'est authentiqua qualita.
Bah, je me demande.
Ça avec ouais, Benicolo, ouais. comment vous dites les Français?
Benicolo, de la qualité, mais j'aime bien la version.
Alors,
dès que j'ai quitté la
France, il aime bien cette phrase. Il l'a sorti deux fois sur le chemin à Dortmund, comme ça. Il se faisait la puce.
Parce qu'il aime les choses belles. Il aime les choses belles.
Je sais pas ce qui lui plaît dans la phrase.
Pour tout te dire, avec Jérôme Thomas, toute la soirée, on a fait un délire avec Simonet, parce qu'il était tout seul sur un canapé avant de regarder le match. Donc, on s'est dit, Simonet, c'est quoi ce canapé? C'est pas le tour de la sofa.
Donc, il y a un booking photographique de moi sur un canapé.
Allez sur Twitter, vous allez vous marrer.
D'accord.
On a mis des photos là sur Apple Sport News.
Je me demande si depuis le début de la saison, j'ai parlé assez de l'Atalanta, peut-être pas. Parce que.
Non, mais surtout, je te confirme,
quand même un petit peu.
On a quand même beaucoup parlé.
Quand même un petit peu.
Simone, excuse-moi, mais pour être un peu sérieux, tu les as vus. tu nous les as même éliminés un petit peu avant l'heure en phase de poule, rappelle-toi. Et tu disais, en phase de poule, ils vont pas y arriver
c'était
et tout.
C'était un vrai miracle, leur cas.
Alors, sur les trois,
c'était fou.
Sur les trois premières matchs, zéro point. La première, on rappelle que les premiers matchs en Ligue des Champions, ils vont prendre 4-0 à Zagreb. Bonjour, c'est la Ligue des Champions, 4 chiffres.
Et en championnat, ça à ce moment-là, ils étaient comment
ça, non, les championnats, ils ont ils toujours été plus montants dans une bonne position. La vérité, c'est qu'ils ont dû apprendre à jouer la Ligue des Champions parce qu'ils ont une intensité qu'aucune équipe est capable de mettre en Serie A. Ils sont capables de vraiment mettre en danger des grandes équipes comme la Juve, l'Inter, la Lazio, mais vraiment tous en difficulté. En Ligue des Champions, quand même, ce niveau de jeu s'élève même en phase des poules en rapport à la stérilité qu'il y a en Serie A. L'Atalanta a appris de ses erreurs,
vite,
est devenu meilleur. Et pour moi, les points qu'ils ont pris face à Manchester City, même si pour City c'était pas un match capital, ça reste vraiment le tournant de la saison. Mais sans aller sur l'histoire, on va sur les présents. Ces soirs, l'Atalanta a eu plein d'occasions, pouvait marquer plus, pouvait en casser plus, parce que quand même, ils font des erreurs.
Mais ce sont des matchs qui sont toujours très ouverts.
Voilà.
Ils font des erreurs dans l'impostation.
Il y a balle de 4-2, puis balle de 5-1.
Ouais, voilà.
Et les dernières 20 minutes, Valence.
Sincèrement, moi, je partage ton enthousiasme. Je l'ai vu avec toi. Mais je pense que derrière, c'est quand même beaucoup ça trop fragile. Parce que ce soir, si t'as un Maxi Gomez, mais qui est à 10% du niveau que doit être un joueur de Liga, il y a deux occasions.
Avec ses intentions à Mestalla, même si Valence est capable
de marquer. Mais moi, je pense que pour Valence, ça va être très compliqué parce que l'Atalanta risque de marquer à Valence.
Voilà.
Donc, dans ce cas-là, c'est ça.
On sait que Valence est capable de mettre le feu.
Voilà.
Est-ce qu'ils peuvent récupérer des joueurs parmi tous leurs
absents? Le Rodrigo Moreno, il a des problèmes épanchement de synovie, le genou enflammé, etc.
Parfois, ça change
la vie. Peut-être que voilà.
Ils vont avec les mêmes intentions.
Ils risquent de marquer.
Ils vont marquer. Il n'est pas fait. Mais 4-1 est un résultat très favorable.
Ce but de Chérichev, quand même. Ce but de Chérichev à 4-0, c'était fini. Ce but de Chérichev, ça donne quelque chose. Et moi, ce que j'ai vu en toute fin de match, face à un Valence qui a été très mauvais. C'est-à-dire que juste avant, aussi bien à la télé qu'à la radio, on disait Valence, on ne sait jamais sur quelle équipe tu vas tomber. L'équipe qui prend 3-0 à Retafe ou l'équipe qui bat le Barça. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très inconstante.
Bien sûr.
Pendant 80 minutes, on a eu l'équipe inconstante et l'équipe, mais qui a été lamentable.
Maintenant, elle a été vraiment
elle a été bousculée.
Elle a été gênée.
Ceci dit, c'est pas la même équipe qui rentre à Retafe. Là, ils ont pris le bouillon parce que l'Atalanta était vraiment très fort.
Oui, alors que contre Retafe, dans l'attitude. Mais quand tu vois, par exemple, le match que fait Guedes, mais c'est en dessous de tout. Enfin, je veux dire, il y a eu un problème aussi de l'entraîneur, que j'aime bien, en l'occurrence, mais, enfin, à la mi-temps, quand tu vois le match pourri que fait Guedes, qui tient pas le coup physiquement, parce que le truc, tu le changes. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de réaction depuis le banc.
Les mérites de l'Atalanta, c'est aussi de ne pas faire jouer avec les pressings.
Oui, mais
pour moi, c'est pas extraordinaire.
Ce qui m'a gêné du côté Valence, c'est qu'il n'y a pas eu de réponse à la super première période de l'Atalanta. Tu vois ce que je veux dire? Depuis le banc. Parce que il n'y a absolument rien à dire. Simplement, à part la défense de l'Atalanta qui est Bah, parce que son jeu risquait automatiquement.
Et voilà, souvent, les buts qui arrivent sur une passe de Palomino.
C'est magnifique.
Tellement risqué, la passe de Palomino, c'est une erreur. Les buts qui marque Valence, c'est un cadeau de l'Atalanta. Ouais, comme les poteaux qu'il prend en première mi-temps. Valence, encore, là.
Comme l'arrêt de Golin à bout portant, c'est une mauvaise relance. Il se reprend parce qu'il met
donc,
une mauvaise dégagement.
L'Atalanta a des défauts. Des défauts de jeunesse, d'expérience.
Plus des erreurs individuelles. Parce que les buts qu'ils ont failli marquer, ce sont des erreurs de l'Atalanta. C'est pas sûr. Des bons mouvements de Valence.
Alors après, la pelouse, franchement, c'est pas, je suis désolé, mais c'est pas une pelouse de huitième de finale de Ligue des Champions.
Bien sûr,
je suis désolé. Enfin,
la semaine dernière,
la pelouse de Milan, tu veux dire.
Ah oui, non, mais c'est terrible.
Oui, enfin,
non,
mais c'est terrible. C'est pas la faute de l'Atalanta.
Non, mais un moment aussi, vu l'argent qui est en jeu, vu ce que ça coûte une Ligue des Champions, il faut exiger un minimum de qualité de la pelouse. Parce que là, ça a quand même desservi un peu le jeu. Il fait un très mauvais match.
Malheureusement.
Parce qu'il peut pas.
Voilà, tu peux inverser le truc en disant, ils gagnent 4-1 alors que c'est même pas leur stade. Ils jouent à domicile, pas chez eux.
C'est bien joli, tout le côté romantique. Bon, Atalanta, déjà, leur stade n'est pas homologué. Ils vont dans un stade où la pelouse, elle est indigne, mais même de la. Deuxième division,
on peut expliquer. La semaine dernière, ils ont joué deux matchs mercredi et jeudi des Coupes d'Italie, un après l'autre, l'Inter et Milan à domicile.
Ça, c'est pas le problème. Donc, tu dois offrir un minimum de qualité de pelouse à ce niveau de football.
Parlons du jeu, parce que c'est ça qui est intéressant.
Moi, je trouve que ça gâche aussi le spectacle.
Lionel, tout à l'heure, tu comparais un peu, on disait l'Ajax de Bergame. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais quand on compare la production des deux matchs d'hier et les deux matchs de ce soir, franchement, heureusement qu'il y a ce soir pendant un train.
Dans le rythme, c'est
incroyable. Mais entre Leipzig et l'Atalanta, c'est génial quand même.
Bien sûr, mais là, tu as les intentions.
C'est pour ça que je soulignais la performance de ces deux équipes et le plaisir que j'ai eu à les regarder.
Dans les intentions, dans le rythme, dans les
jouer comme ça et de faire mal à Tottenham.
Pour gagner les duels, ils sont vraiment. Il y a un investissement des attaquants dans le jeu défensif, dans les transitions. Ça va à 2000. Voilà, là, on est vraiment dans la Coupe d'Europe. On est vraiment dans la Champions League, quelles que soient les équipes avec leurs budgets respectifs. Franchement, là, c'est pas une question de budget. C'est une question d'envie, c'est une question.
Ça, Lionel, je suis content de te l'entendre dire. Parfois, il est arrivé que sur ce point-là, nous ayons été en désaccord sur la première phase et encore pas tant que ça. Mais une équipe comme l'Atalanta, bon sang.
Il y a environ 5 millions de budget.
Que toutes nos équipes les regardent, et notamment l'OL.
Et la Juve
à plus de 200 millions, dont joue cette équipe.
Attention, Leipzig, gros budget par ailleurs.
Leipzig, je te parle de l'Atalanta.
Mais ils sont vraiment à 300 millions, Leipzig? C'est énorme.
Polo nous confirmera ça tout à l'heure.
C'est un club
les
famille.
Les plus gros achats de l'histoire de l'Atalanta. Mais voilà. C'est Zapata qui a été payé 25 millions. Sinon, c'est des joueurs à aller trouver.
Le milieu
en Belgique, Freuler.
Combien même pas 2 millions.
Le plus gros joueur de l'Atalanta, c'est
Groningen, si je ne me trompe pas, il a été payé 2-3 millions.
Aujourd'hui, Simone, quand l'Atalanta joue, c'est toute l'Italie qui est derrière, c'est tout un peuple, plus que quand ce sont les autres équipes.
Oui, plus ou moins.
Mais là, c'est parce que c'est quand même une petite.
Elle doit déclencher de la sympathie, mais généralement, les supporters des autres clubs se foutent de ce que font les autres clubs.
L'Atalanta a une grosse rivalité avec l'Inter, donc là, il n'y avait pas.
Il n'y a pas d'enthousiasme général en Italie, non?
Oui et non, c'est-à-dire.
Pour les clubs, ça ne marche pas en Italie, ça.
C'est
soutient son club les autres.
Après bon, il y a peut-être un peu des sympathies générales, mais
voilà, oui ça oui, la parce Talanta, que c'est le petit club.
L'Atalanta, c'est pas très aimé quand même à niveau des supporters, et c'est et des supporters
pas, déjà tout la moitié sud de l'Italie va pas soutenir l'Atalanta.
Et Gasperini,
parce que Bergame est une ville.
Et je veux dire Gasperini, c'est pas un entraîneur qui est très aimé par les autres supporters. C'est un entraîneur qui se fait souvent insulter dans les stades parce que c'est quelqu'un qui se plaint beaucoup, qui a un mauvais caractère. Après c'est un excellent entraîneur et une chose je vais vous dire sur Gasperini, 75e minute, il sort Caldara, défenseur central,
pour faire rentrer l'attaquant.
Il change aussi son tactique, mais c'est pas qu'il va pas
bétonner. Il sort un défenseur pour un attaquant, alors qu'il mène 4-1.
À la 75e minute. C'est quelque chose que montre vraiment quelle est son idée. Et Duván Zapata, il a fait son travail à la fin avec garder les ballons, donner des coups, bien sûr.
Mais c'est intelligent ce changement, c'est un peu risqué, mais tu peux marquer le cinquième déjà. Surtout, comme dit Daniel, tu remontes l'équipe. C'est-à-dire à ce moment-là,
tu
tires un peu. Tu donnes un message mental à tes joueurs
et tout le monde. Et ce soir, c'est la victoire de Gasperini, vraiment. Si on pense lui, il va prendre une Atalanta qui jouait. Pratiquement les maintiennent. Il y a 4-5 ans, c'était une équipe vraiment du basse, partie basse du tableau. Qu'est-ce qu'il a fait? Où les amener? C'est pas encore en quart de finale, mais c'est un projet. Ouais. Il y a un travail, il y a une idée des jeux. Apporter à quel il apporte ses connaissances du gros budget qui l'Atalanta a aujourd'hui avec Gasperini, parce que quand il y a Gasperini, le budget c'est 30-40 ouais. millions. Aujourd'hui, avec tous les ventes qu'il a fait à joueurs à 30-40 millions qui sont partis, l'Atalanta peut se permettre d'avoir un plus gros budget. Donc, s'il y a un homme derrière tout ça, derrière cette magie, cette soirée incroyable, c'est Gasperini, et j'espère qu'il va continuer à Bergame, parce que je ne pense pas que ces modèles, on peut les retrouver dans une autre équipe comme la Roma, la Lazio.
Parlons un peu des joueurs maintenant, là, parce que il y en a évidemment. Là, bon, toi tu suis l'Atalanta toute l'année, on n'a pas tous regardé tous les matchs de poule de l'Atalanta, on va pas se mentir. Là, on a découvert certains joueurs.
Gomez, par exemple.
Gomez, ouais, pour moi, c'est pas
connu depuis longtemps. Ouais, mais enfin, il a eu une interview aujourd'hui dans le País. Je veux dire, il n'avait jamais eu d'interview dans le País. Le grand journal espagnol. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, enfin, il est mis en avant. Mais fait un match.
Non, mais Atebauer, là, par exemple.
Bah, Atebauer, c'est l'année dernière, c'est les défenseurs qui marquent plus de l'Atalanta, il marque 6 buts. Cette année, il était un peu mis à des côtés, comme avec l'explosion de Gosens. Les latéraux défensifs, qui sont jamais vraiment défensifs, sont souvent les meilleurs joueurs de l'équipe de Gasperini. Cette année, Gosens, latéral gauche, il a 7 buts en championnat et en Ligue des Champions. Atebauer marque ce soir ses premiers buts. C'est un joueur qui fait énormément des efforts. Mais c'est difficile pour moi de les sortir du contexte Atalanta. Si on va voir Spinazzola, qu'est-ce qu'il a fait à la Juve et à la Roma depuis son départ de l'Atalanta, c'est pas la même chose. Conte, il est parti au Milan, c'est pas la même chose. C'est vraiment, les latéraux, c'est parfait parce qu'ils demandent des efforts. Fort, mais les mouvements qu'ils font aussi les autres joueurs, et surtout Gomez sur les côtés gauche,
sont
favorables au fait que les latéraux rentrent dans la surface.
Bien sûr.
Les premiers buts, c'est Gomez qui met la palle, les ballons sur le deuxième poteau pour Atebauer, mais il y avait Gosens quelques mètres à côté de Gomez qui était prêt à rentrer aussi dans la surface. Et après, c'est difficile
t'as
de sortir un joueur pour moi ce soir.
T'as pas un joueur que tu peux ressortir. T'as pas un joueur qui marche lorsque l'Atalanta a la balle. T'as tout le monde qui est en mouvement.
Ah ouais,
dans tous les sens. Il y a des courses croisées. Et le ballon est toujours en mouvement. Jamais arrêté.
C'est incroyable ça.
Et ça joue tout le temps première intention. Devant.
Dis-moi, Pasalic. Il était à Monaco, lui.
Oui. Il était à Monaco, il était à Milan.
Il a pas fait grand
chose. Monaco, il va faire tout le champ.
Il est un joueur de Chelsea. Il a jamais été si important, même s'il n'est pas un titulaire indiscutable. C'est un joueur qui souvent rentre en deuxième mi-temps. Parfois, il est titulaire. Mais à mon avis, il a jamais eu un entraîneur qui a cru en lui autant que Gasperini. Et quand tu es prêté une année ici, une année par là, et tu sais pas en été où tu vas jouer,
oui, t'as besoin de confiance,
avoir quelqu'un qui te fait confiance, l'Atalanta devrait lever l'option d'achat qui s'y mettront pas ces 15 millions, mais aujourd'hui ils peuvent les faire aussi avec l'argent de la Ligue des Champions. Mais Gasperini, c'est quelqu'un qui fait augmenter pas les valeurs seulement économiques des joueurs, mais aussi à un niveau moral qui fait croire beaucoup plus en eux parce que les résultats ils arrivent.
Dis-moi, le remontada, c'est possible là?
Oui, s'il y a un stade qui peut le faire, c'est Valence. C'est un stade mythique pour ça, ils l'ont déjà fait.
Enfin, Barcelone aussi, hein.
Pardon?
Ça marche ailleurs.
C'est un stade qui est connu pour ça. C'est-à-dire que c'est le pire stade d'Espagne quand le public est contre ses joueurs parce que en général ils ont peur. Mais là on sent qu'ils vont faire monter la sauce et que il suffit de quelques bons résultats.
Il y a eu des occasions quand même ce soir.
Ouais, c'est pour ça. Tu vois, c'est pour ça. Si y a de bons matchs en Liga d'ici au match retour à Valence, il y a des retours de joueurs importants comme Rodrigo Moreno qui est quand même le buteur de cette équipe. Il y a possibilité. Ça peut être, après, je vois la jeunesse de l'équipe de Bergame je parle de la jeunesse, pas simplement de l'âge, mais tu vois, dans la façon de jouer, l'enthousiasme, etc. Est-ce que s'ils se prennent un but dans les 5 premières minutes à Valence, ils vont pouvoir tenir le coup? Tu vois, comment ils pourraient gérer un premier but rapide de Valence?
Ils sont frais quand même. Il y a beaucoup de fraîcheur dans cette équipe. Ouais. C'est pour ça qu'ils me font penser à l'Ajax. Parce
oui,
que
bien sûr.
À l'Ajax, à chaque fois, on disait, ah ouais, mais attends, le retour, ça va être compliqué là-bas. Et en fin de compte, ils en mettaient autant.
Et ils ont
même à l'extérieur.
Ils ont gagné au Real Madrid.
Exactement.
Ils ont
eu le Real Madrid. C'est pour ça que je vais comparer ce soir. Attention,
donc, il y aurait une ambiance de remontada. Après, c'est quand même un résultat magnifique. 4-1. Enfin, je veux dire, c'est...
Pour l'Atalanta.
Pour l'Atalanta. Ouais, enfin, je veux dire, c'est un résultat magnifique. Donc Valence, mais j'insiste sur ce que je disais depuis quelques jours. C'est vraiment... c'est une équipe qui est tellement surprenante du bon côté, du mauvais côté. Donc, ce soir, on a eu le mauvais côté de Valence. Est-ce que dans 3 semaines, on aura le bon côté? Ça reste une inconnue. Mais quand même...
Ils ont quand même mis 2 buts assez dingues, hein. Les frappes.
Ah oui, il y a ça aussi. Il y avait
ça qui a
joué un peu au spectacle.
Et Iličić, c'est un pour gaucher. Ilicic, ouais, c'est l'homme droit, qui vraiment qui utilise. On peut dire qu'il utilise son pied droit que pour marcher,
ouais,
mais
bien sûr, bien sûr.
Après, Domenech,
c'est pas comme
pas
ça,
fan.
Mais c'est quelqu'un qui utilise très peu son pied droit.
Ah, je suis pas fan.
Ouais, il y a non, t'as jamais été fan de Domenech, toi. On te connaît.
C'est un vrai mec.
Mais bon, on peut pas dire qu'il joue
dans les buts. Sur les deux frappes, là, il est grand chose à faire, le pauvre.
Il m'a pas plu.
Au-delà des deux frappes, parfois, il y avait des.
Il a fait des interventions au pied.
Mais c'est l'ensemble.
Il n'inspire pas la confiance à sa défense.
C'est l'ensemble de l'équipe qui n'était pas en confiance. Donc voilà. Mais après, sincèrement, si vous regardez le 11 possible de Valence, ou même celui de ce soir, il n'est pas ridicule. Enfin, tu vois les joueurs de qualité qu'il y a.
Non.
Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, donc Valence, oui, a une petite possibilité de remontada.
Après, comment est l'Atalanta quand ils sont dans des périodes de domination comme ça? Est-ce qu'ils sont capables de jouer un catenaccio, de faire le dos rond et de jouer en...
Ils sont pas capables.
C'est
quoi la plus grosse raclée qu'ils ont pris cette année? Ça leur arrive de prendre du lourd?
Et prendre du lourd.
Ils ont pris, il me semble, non?
J'ai l'impression que si lourd.
Ils ont jamais pris le bouillon.
Bah non, ils ont pris 4-0 face à Zagreb en premier match.
Ouais. Et bon, bah, face à City, Valor, c'est bon.
Face à City, ils ont pris 3-4-1.
Je sais plus.
Ils ont pris cher aussi face à City, mais aussi parce qu'ils continuent à jouer. C'est la première fois où on verra l'Atalanta dans l'obligation, on peut dire, de gérer aussi les résultats.
Dans la gestion. Ouais,
Gasperini vient de dire que
ils vont pas changer.
Mais c'est pour ça que le match retour, malgré le résultat, est quand même super intéressant.
Oui, bien sûr.
Quelques réactions sur les réseaux sociaux. Yunkai qui nous dit l'Atalanta doit être l'exemple de tous les clubs de Ligue 1. Nous à Lyon avec Garcia, qu'est-ce qu'il fait? Il mène, il sort un attaquant pour bétonner derrière et ça marche pas. Bah voilà, faut faire comme l'Atalanta.
Et l'Atalanta, ça doit être l'exemple, comme l'Ajax devait être l'exemple l'année dernière. Ouais. Comme
Leipzig peut en être un autre. Hein, on va en parler tout à l'heure.
Leipzig, encore une fois, là, c'est un peu différent parce que c'est une énorme structure. Ouais.
D'ailleurs, à propos du budget, Daniel, Alex nous annonce 35 millions de budget pour l'Atalanta. Simonet.
C'était il y a quelques années. Là, ça a augmenté.
Là, c'est plus. Ouais. C'est parce que 35 millions, c'est même pas des. C'est fin de Ligue 1, quoi.
Nîmes. Ils ont gagné de l'argent avec les bonnes saisons. La Ligue des Champions, ils sont un peu mieux.
Il y a quelques années, c'était ça. Au début de l'époque Gasperini, c'était sur les 35-40 millions. Mmh. Là, ça a augmenté avec l'Europa League, le pré-Ligue des Champions. Cette année, si je ne me trompe pas, c'est sur les 100 millions.
Mmh. Autour de 100 millions, ouais. C'est déjà effectivement pas mal.
Mais bon, si cette équipe arrive à donner, pour une considération socio-culturelle, si cette équipe arrive à donner à la ville de Bergame un côté sympathique...
Pourquoi c'est moche, Bergame?
C'est pas que moche. C'est pas la ville qui est moche.
La ville, elle est jolie. La Bergame, non, un peu haute.
Non, mais il faut expliquer. Non, mais Daniel, moi, je ne connais pas. Tu as fait des insinuations. J'aimerais bien que tu expliques pourquoi. C'est quoi? C'est que politiquement.
Tu m'as dit que tu voulais aller en vacances là-bas.
Bergame. C'est le verso de la Ligue Lombarde.
C'est considéré un peu des montagnes.
Le suprémacisme.
Le pourcentage de mecs d'extrême droite dans cette ville. On va être assez élevé.
Je dirais même pas extrême droite.
De Bergame, c'est un peu difficile qu'il m'adresse la parole.
C'est-à-dire que toi, toi Bergame, t'es un mec, t'es un mec d'extrême gauche. T'imagines?
Non, ça sera pas du tout ça. Je sais même pas si je suis au-delà du cutéreux.
Oui.
Je sais même pas si j'ai le droit de lui parler.
Oui, bien sûr. Oui.
Il est du sud de l'île de France.
Je connais des gens.
Mais tu sais,
mais moi aussi j'en connais. J'ai des amis.
C'est un lit spécial.
C'est une ville et
dans
le coin là, il n'y a pas beaucoup de gens qui
sont. Non. Et comme j'ai dit, c'est pas très aimé entre les autres supporters italiens. Ça, c'est
aussi.
En tout cas, voilà, l'Ajax de Bergame nous a régalé.
Le foot rend sympa.
Merci les gars. On va dans quelques instants faire un petit coaching et vous allez être avantageusement remplacé ou pas par Paulo Breitner et Julien Laurens pour parler de...
Je trouve que ça baisse un petit peu, mais Julien Laurens, il a quoi que c'est deux matchs de défaite, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Il s'est calmé, hein.
Ah, il veut se faire Julien Laurens.
Mais moi, c'est mon objectif. Ce soir, j'avais un œil sur Valence, mais j'avais un œil sur Tottenham. Hein.
Merci Fred. Allez, merci Simone Autentico Qualità. Et dans quelques instants, on parle de Leipzig, puis du Paris Saint-Germain d'ici minuit, bien sûr, dans l'After. À tout de suite.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo est là, Lionel Charbonnier également, c'est l'after jusqu'à minuit avant les infos PSG d'hier soir et de la nuit et de la matinée et de l'après-midi. L'autre match de Ligue des Champions du soir, la victoire du RB Leipzig à Tottenham. Julien Laurens nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Polo Breitner arrive dans quelques instants. Polo, il y a du boulot hein, entre Dortmund, Leipzig, tout ça là. Là, c'est la semaine spéciale Polo. Est-ce que tu es surpris par la performance de Tottenham ce soir, Julien?
Non, pas surpris. C'est ce qu'on avait évoqué déjà lundi dans l'émission. C'est-à-dire qu'ils ont du mal quand même en ce moment avec Mourinho, surtout avec l'absence de Son, qui est lui aussi blessé après celle d'Harry Kane pour 6 semaines. C'est très compliqué pour eux. Offensivement, c'est compliqué. Et défensivement, comme on l'avait dit aussi, ils continuent à prendre des buts, ils continuent à concéder des occasions. Et ce soir, ça aurait facilement pu se terminer sur une défaite 3-1, par exemple. Donc, 1-0, je trouve qu'il limite la casse quand même et il garde un espoir avant le match retour, même si on a le match.
La première mi-temps, Tottenham était complètement à la rue, c'est incroyable.
C'est compliqué, ouais. Et moi, je trouve que Mourinho a du mal à trouver des solutions. Par exemple, je m'attendais à un changement qui fasse quelque chose à la mi-temps. Et même si la seconde période a été un petit peu meilleure, t'as rien vu finalement de la part de Mourinho pour essayer d'inverser la tendance. Je trouve que Leipzig a peut-être moins dominé la seconde période, mais a encore été assez souverain et a jamais vraiment été dérangé par cette équipe de Tottenham qui a du mal.
Julien, c'est surtout Leipzig qui a baissé de pied parce qu'ils ont tenu un rythme important pendant 80 minutes. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à la 80e, 75e, qu'on a commencé à voir Tottenham. Sinon, avant, il n'y avait rien du tout, quoi.
Tout à fait. C'est vrai. C'est exactement ça. Et je pense qu'avec un milieu de terrain pareil, avec une composition d'équipe pareille au coup d'envoi, Mourinho joue pour le match nul, comme il avait fait contre Manchester City, comme il avait fait contre Liverpool. À chaque fois qu'il y a un gros, de toute façon, il a cette attitude très négative, ce qu'il a toujours fait, hein, mais aujourd'hui, ça marche beaucoup moins, parce que, en face, t'as tellement d'intensité, t'as tellement de talent, que toi, si tu te reposes un petit peu sur ces acquis-là, qui sont même pas encore bien huilés, c'est vrai que c'est très compliqué.
Tu penses que dès le départ, son plan de jeu, c'était de jouer en bloc bas et puis d'essayer de contrer, même avec l'absence de Son?
Plan de jeu de Mourinho, complètement. Lyonnais.
Ouais. Ah ouais. Complètement. Mais moi, je trouve que.
Excuse-moi.
Si tu veux, c'est fini ce temps-là.
Ouais, excuse-moi, ouais. Parce qu'au départ, je me posais vraiment la question. J'ai dit, mais c'est son plan de jeu. Et ensuite, quand j'ai vu les joueurs de Leipzig, l'intensité, je me suis dit, mais non, c'est qu'en fin de compte, il ne peut pas faire autrement, quoi.
Non, je pense que c'était vraiment les consignes. C'était les consignes contre Liverpool, c'était les consignes contre Manchester City.
Chaque fois qu'ils jouent un gros, c'est ça, quoi.
Exactement. Et même contre Chelsea aussi, quand Chelsea est venu s'imposer au Tottenham Stadium 2-0 en championnat, c'était pareil. En première mi-temps, ils ne dépassaient pas la ligne médiane. Ils étaient acculés, ils étaient dans leur moitié de terrain où le mot d'ordre et les consignes, c'était ne pas laisser d'espace, ne pas prendre trop de risques, ne pas trop s'exposer et on voit en compte ce qu'on peut faire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans des matchs pareils, c'est plus possible. Tu ne peux pas jouer sans prendre de risques, sans avoir de l'intensité, sans aller vers l'avant.
Sinon, à un moment, tu te feras toujours avoir. C'est pour ça que Mourinho, ça fait des années que ça dure. Il est dépassé. Il est fini. Il pratique plus. Il fait plus pratiquer le football qui peut réussir.
Messieurs, on va écouter Hugo Lloris et ensuite on parle du RB Leipzig. Hugo Lloris, il y a quelques instants, juste après le match, bien sûr, le gardien de Tottenham.
Ouais, exactement. Bon, après il faut rester positif. Il y a encore un deuxième match à jouer. S'inspirer de ce qu'on a pu faire en termes d'exploits l'année dernière, mais on connaît le contexte. C'est une saison très difficile. Il nous manque beaucoup de joueurs importants et on doit trouver les solutions en équipe. Être prêt à se battre à chaque match et créer l'exploit. Tout simplement. Aujourd'hui, ça a été difficile face à une très très bonne équipe, bien organisée. Ils nous ont causé beaucoup de problèmes en première mi-temps, mais les 20 dernières minutes me laissent quand même espérer parce qu'on a vu un autre visage, une équipe beaucoup plus tranchante, une équipe capable de prendre la possession et prendre le jeu à son compte et c'est comme ça qu'on aurait espéré démarrer le match. Maintenant, pour différentes raisons, on a beaucoup subi et voilà, on n'a pas concédé le deuxième but. Là, effectivement, les chances seraient finies, mais voilà, ça sera difficile, mais il faut être prêt à créer l'exploit.
Voilà Hugo Lloris. Alors que Polo Breitner, l'homme de la semaine, nous rejoint. 2 matchs de victoire.
L'homme qui rêve d'un triplé maintenant.
Pour Polo.
Le triplé est possible.
Bonsoir, messieurs.
Polo, le triplé.
Salut Polo.
Oui, et puis il y a l'Europa League, il y a tout ça, il y a plein de choses encore. Écoute, moi je suis.
L'Europa League.
Bah, ça se joue, il y a encore des équipes allemandes demain qui jouent. On verra. Mm-hmm. Si, en fait, moi, je suis ébahi par la performance de Leipzig ce soir, qui a quand même relativement peu d'expérience dans cette compétition. Je considérais au départ que Tottenham, alors évidemment, le match retour, on verra ce qui va se passer, que Tottenham était le favori, voire le clair favori sur cette rencontre, parce que c'était un vrai défi d'aller défier le finaliste de la saison passée. N'oublions jamais que le RB Leipzig n'a aucune référence européenne, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais battu de gros clubs européens capables de gagner. Moi, ce qui m'a plu ce soir,
ils ont l'insolence du débutant.
On peut dire ça comme ça, mais moi, ce qui m'a plu ce soir, c'est que la façon dont ils jouent en Bundesliga, ils jouent la même façon en Ligue des Champions. C'est-à-dire, alors évidemment, c'est un peu comme Dortmund hier, ils se projettent moins, ils prennent moins de risques sur des. Il y a des moments, mais on n'hésite pas à faire jouer un Sabitzer en numéro 6, alors que c'est quand même pas le plus grand des défenseurs ou des personnes qui met le pied. On a un Mukiele qui fait sûrement son meilleur match de la saison sous le maillot de Leipzig, alors qu'il n'est pas toujours titulaire. Et puis moi, Nkunku, voilà, enfin le gars fait partie de ces Français que j'adore en Bundesliga parce qu'ils ont rien dit depuis le départ. Ils n'étaient pas forcément titulaires, on lui donnait 20 minutes de jeu, etc. Et il a mis Forsberg sur le banc, il est titulaire ce soir contre Tottenham à l'extérieur. Donc chapeau le petit parce qu'il est pas tellement grand et le voilà. Enfin moi je suis vraiment impressionné par cette façon presque tu vois par rapport au match de groupe par rapport au groupe avec Lyon, ouais. Benfica et le Zénith. C'est presque une équipe qui était qui n'avait pas peur, qui faisait pas d'erreurs alors qu'ils en ont fait beaucoup pendant la phase de groupe et presque une équipe mature. Et j'ai pas envie de dire que cette équipe pourrait être la surprise de cette saison, mais je crois qu'il y a une belle épopée qui peut s'écrire. En tout cas, c'est ce que je pense aujourd'hui.
On parlait tout à l'heure de l'Ajax de Bergame, là c'est pas l'Ajax de Leipzig.
Moi, j'ai plus l'impression que ça marque quand même beaucoup le football allemand dans cette façon de se projeter, dans cette façon de jouer
en
avec
tout cas,
les latéraux.
Les équipes allemandes nous régalent.
Bah oui.
Oui, mais tu vois, ça va.
Franchement, c'est agréable.
Oui, mais
c'est...
quand tu acceptes le déséquilibre comme ça ou que des joueurs se projettent, faut aussi, quand ça marche pas, accepter le fait de t'en prendre 3, de t'en prendre 4, quand les équipes sont plus intelligentes que
et
toi.
Qui
ça...
dit que tu l'acceptes
en,
pas.
En tout cas, quand tu regardes ça de façon neutre comme nous, tu te régales.
Oui,
même s'ils en prennent 3, 4, c'est génial.
L'année dernière, en 8e de finale de Ligue des Champions, les clubs allemands se sont fait éclater par les clubs anglais. Là, ça passe. Là, c'est, il y a le match Dortmund PSG. Il y a des choses comme ça qui il faut accepter en fait que ce football allemand soit sûrement excellent pour le spectacle. Hein, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a que les stades allemands.
Mais qui est moins de coupe à la fin, quoi, tu veux dire.
Mais qui est moins de coupe à la fin et qui ouais. est le droit à l'erreur, j'ai envie de dire.
Alors, tout à l'heure, on parlait du budget de Bergame. On disait en passant que Leipzig, c'est quand même une grosse machine et il y a de la thune.
Oui, alors tout est relatif. On ne peut pas comparer le budget de Leipzig avec celui du Real, du Bayern ou même de Dortmund. Hein. Moi, le vrai dernier chiffre qu'on a, c'est 217 millions en 2017. Donc, avec l'évolution des droits de télé, avec évidemment les participations en Ligue des Champions, on va monter 300, à 300. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais 300, c'est Schalke, c'est un peu moins, c'est un peu plus que Leverkusen, c'est pas non plus des choses extraordinaires, c'est plus le projet, moi, qui est intéressant. Donc, oui, c'est une belle équipe. Quand on commence, c'est les chiffres 300. Peut-être que pour le foot français, on devrait commencer à réfléchir, parce que on parle toujours de.
Non, mais le 300 en Allemagne, c'est 400 chez nous.
Qu'est-ce que ça veut dire quoi ça?
Bah, par rapport aux charges, par rapport à tout ça, les charges non, sont pas les mêmes.
Mais
on peut
pas
comparer.
De charges. Mais c'est une question d'oseille. Mais parce que la masse salariale de Stuttgart, par exemple, est supérieure
Il faut comparer. Enfin, moi, je compare plutôt que c'est quel budget par rapport en Allemagne.
Mais non, le problème.
Quel est le budget de Leipzig?
C'est une affaire de charges.
Mais c'est une affaire de charges.
Pourquoi?
Parce que là. L'imposition,
mais c'est pas la même, mais rien n'est à voir.
Mais là, je te parle de l'oseille qui rentre, je te parle pas de ce qu'il y a en dessous. Le chiffre, la masse salariale de Stuttgart est supérieure à l'ensemble du chiffre d'affaires de la SSE. Tu peux mettre ta
Stuttgart qui est en D2.
Oui, qui est en D2 aujourd'hui. Tu peux mettre ton chiffre ta taxe à 100% à zéro, ça ne change strictement rien. Ça, c'est des logiques libérales, c'est des logiques de toujours dire toujours moins de charges pour essayer d'être plus compétitif. Ça n'a jamais fonctionné.
Ils ont quel budget du championnat?
Qui?
Bah, on est en train de parler de Leipzig, non?
Oui, bah Leipzig, ils ont alors 1-2, ils se battent pour la troisième place.
Ah ouais. Et nous, le troisième budget, c'est combien?
Monaco.
Budget,
Monaco, Marseille.
On va dire que Monaco, c'est un
Monaco,
peu fou.
Monaco, t'as PSG, Lyon.
PSG, Lyon,
Monaco.
250. Monaco, on sait pas vraiment avec eux, c'est toujours un peu compliqué. Et après, on arrive tout de suite à Marseille avec 110-120. Leipzig, c'est au-dessus. Le Leipzig a plus d'argent et donc
voilà.
Mais c'est un club qui a plus d'argent,
voilà.
Non, mais moi ce que je retiens de Leipzig, c'est pas le pognon, c'est le projet de jeu,
s'il y a
c'est le style qu'ils mettent en place, c'est ça qui compte.
Il y a pas de jeu. Tottenham, ils ont 500 millions, ça joue pas. Mourinho, Lionel, voyons.
Oui, non, mais
Tottenham,
après,
ils ont.
Après, on parle pas des intentions. Mais c'est pas un petit.
Et même s'il y avait eu
c'est pas un petit club. C'est pas la Talanta.
On est d'accord.
Ça
dit que c'est un petit club. Dans le jeu, là, c'est.
Non. Je parle juste de budget.
C'est un petit club. Mais.
J'avais l'impression d'entendre un peu ça.
Pas forcément dans la masse salariale. C'est la masse salariale qui est déterminante. À Leipzig, elle va pas forcément, parce que les joueurs qui sont à Leipzig, à part deux, trois vedettes à qui peut-être ils donnent, et je pense Timo Werner doit faire partie des mecs qui touchent beaucoup.
Parce que c'est la politique
de
Red Bull.
Je pense pas qu'une Kunku touche un salaire astronomique, et d'autres joueurs de cette équipe, idem.
La politique pour aller chercher les jeunes, quand même, c'est pas qu'une question d'argent. C'est déjà, il faut le faire et le mettre en place, hein. Et ça coûte pas tant.
Quand l'Atalanta va chercher le Suisse à 2 millions, est-ce qu'on le connaît, nous? Est-ce que les clubs français sont sur les joueurs suisses, les joueurs autrichiens, toutes ces filières-là? On n'a pas, nous, on développe pas ça. On fait pas ça, nous. Mmh. Nous, quand tu vas à l'étranger, tu vas chercher un mec qui est parti de France, qui a été en situation d'échec et que tu fais revenir.
C'est vrai.
Genre, comme on fait Saint-Etienne, comme font pas mal de clubs, on va chercher le mec qui était parti, ça a pas marché pour lui, dans un vulgaire club anglais ou je sais pas où, on le fait revenir et puis voilà. Mais on n'a pas, on travaille pas sur la matière. Parce que aussi, t'es censé en former plein des joueurs.
Alors, il y a combien de joueurs de la formation, issus de la formation à Leipzig?
Alors,
dans l'effectif aujourd'hui. Mais
quand on dit ça, pour le cas de la Galaxie Red Bull, ça veut pas dire grand chose, parce qu'il y a Salzbourg, si tu veux, s'il y a des filières.
Ouais.
Zabitzer, c'était un ancien.
Non, mais à Leipzig.
Mais ça marche. Bah, je viens de t'expliquer. Il y a une galaxie. C'est une galaxie.
Oui, la galaxie, c'est dire un club. Vous êtes
pas parler de club. Je parle de Leipzig.
Mais non, mais tu peux pas, Lionel, en fait. Tu peux pas prendre en considération Leipzig sans prendre en considération le système qu'ils ont mis en place aussi à Salzbourg, à New York. Ils ont des clubs filiales. En fait, si tu veux, c'est une espèce de grande copie.
On ne peut pas comparer. Alors, un club, on ne peut pas du tout comparer Leipzig à un club français. Non. C'est incomparable.
Bah ouais, c'est incomparable.
C'est incomparable.
Ouais. Incomparable.
Donc, ça ne sert à rien qu'on se batte entre nous.
Non, mais la structure qu'ils ont développée.
Ça ne sert à rien qu'ils se rencontrent, quoi, parce que de toute façon, il n'y a rien de comparable.
Ah oui, mais
Lyon fabrique une structure identique où une entreprise va prendre 3-4 clubs dans le monde pour faire circuler ses joueurs, recruter, développer un scouting de pointe pour prendre des mecs à droite à gauche et les former. Tu n'y arriveras pas avec un directeur du football. Non, Leipzig, c'est vraiment un modèle complètement particulier.
Non, alors,
je vois pas qui en France pourrait développer un truc comme ça. En revanche, ouais, quand on parle de petits clubs, soit formateurs, soit comme l'Atalanta qui recrute des mecs pour pas cher, qui bricole et qui a surtout un entraîneur qui développe sur plusieurs années une identité très particulière avec des joueurs intelligents, ça peut être plus quelque chose qu'on devrait pouvoir faire chez nous.
Les gars, clôturons le chapitre.
Pas à Leipzig, c'est trop.
J'ai juste un dernier tweet d'Alex qui me dit, qui est supporter niçois, il me dit, si on pouvait envoyer Vieira faire un stage chez Gasperi ou Nagelsmann, s'il vous plaît. Voilà, parce que ça a séduit pas mal de supporters de clubs de Liga, ce qu'on a vu ce soir, donc que ce soit en Italie.
Aussi, on pourra y revenir.
En Angleterre avec
n'oublions pas les entraîneurs. Moi qui pendant des années j'ai tapé sur les entraîneurs français et à juste titre et sur la formation, et on en a parlé, on en parle très souvent. Attention, en France les entraîneurs ont changé. Beaucoup d'entraîneurs ont changé et ont des idées, pour beaucoup, en tout cas beaucoup plus qu'il y a quelques années, positives sur le jeu. Sauf qu'ils se heurtent à quelque chose, c'est un recrutement inexistant et une formation de joueurs aujourd'hui. Ce que fait Gasperini, si tu prends des joueurs formés en France, ils n'ont pas dans leur bagage footballistique et intellectuel la capacité à jouer de cette façon. Ils ne sont pas faits pour. Tu ne trouveras pas des joueurs capables, ou même comme fait Nagelsmann, de comprendre ce genre de consignes, parce qu'ils ne sont pas formés à ça, à jouer à 7 devant le ballon, à travailler ce genre d'exercice-là. C'est pas fait pour. Un mec comme Paulo Souza, un discours sur le foot, s'il va jouer en Allemagne, ses équipes, elles vont jouer vraiment autrement. Et on en a. Et même Vieira, je suis sûr, s'il va en Allemagne, ses équipes vont jouer autrement. Les entraîneurs ont beaucoup changé en France. Mais ils n'ont pas la matière. C'est à ça qu'il faut penser.
C'est-à-dire que Nkunku, il pouvait pas rester en France avec un nouvel entraîneur, comme tu dis, avec les nouvelles
idées. Nkunku, il aurait pu, mais ah ouais, il a fait ce choix qui, à mon avis, non, il a bien fait.
Pourquoi ils font ce choix-là?
Nkunku,
pourquoi ils font le choix de partir à l'étranger?
Il a un beau salaire, exactement.
Lionel, le mec, il est au PSG. Au PSG, il a joué un peu, mais il n'arrive pas à complètement jouer. Le mec qui est au PSG en France,
il est parti. Il est parti pour Leipzig. C'était la même chose.
Il est formé au club. Il a une telle opinion de lui-même que c'est l'étranger ou rien. Il redescend pas en France après le PSG, c'est très rare. Donc il va, et puis surtout Leipzig a un projet
qui est quand même
à la base quand il y va, il est remplaçant comme
remplaçant, ça veut pas dire déjà il y a des turnovers, il a mis parce que Dagelsmann en fait beaucoup, il y a différents projets de jeu, une fois tu joues avec 4 attaquants, une fois tu joues avec 3 seulement, etc. Et en plus, il y a des joueurs là par exemple Nkunku joue encore plus depuis les matchs retour, mais c'est le même pour le jeune espagnol Olmo parce que il est passé dans un système en 3-4-1-2 avec un véritable meneur de jeu derrière deux attaquants. Et Non, mais Forsberg.
Et moi, au-delà de ça, moi, ce que je veux dire par là,
plein de joueurs, même français, quand ils arrivent en Allemagne.
Exactement. Je veux en venir, c'est-à-dire que les comportements de nos joueurs français dans le championnat de France sont complètement différents lorsqu'ils franchissent la frontière.
Absolument.
Pourquoi je ne l'explique pas, je ne le supporte pas.
Mais ça, tu as, alors, 1000% raison.
Et ça, c'est quelque chose quand même. Pourquoi on se permet des choses en France, enfin, dans les clubs en France, et notamment chez.
Ça s'appelle le process d'autorité que tu retrouves dans tous les secteurs
je ne comprends pas.
Déjà, tu retrouves ça dans plein de secteurs de notre société.
Oui.
Déjà,
le rapport
à l'autorité,
on peut chercher des ésotériques, du mysticisme, tout ce qu'on veut pour expliquer le comportement. Moi, j'ai une analyse beaucoup plus pratique à ce niveau-là. Les clubs français professionnels n'équilibrent pas leurs comptes, donc ils doivent vendre pour équilibrer leurs comptes. À partir de ce moment-là, le mec qui soit bien dans sa tête, mal dans sa tête.
Il sait que de toute façon, il est là de passage, il sait la matière pour être vendu. Donc il ne va pas s'investir là, il sait qu'il sera vendu.
En Allemagne, les clubs équilibrent leurs comptes.
C'est la même chose. Leipzig, c'est la même politique.
Non.
Ils veulent garder les joueurs maintenant. Leipzig, ils les gardent.
Mais en plus, c'est surtout que les clubs allemands équilibrent leurs comptes. Je vais donner un exemple très simple qui est aujourd'hui un joueur de Leipzig, chez Kempel. Ce joueur sortait du centre de formation de Leverkusen. Excusez-moi pour le mot, c'était un petit branleur.
Il joue pas à Gladbach, Kempel?
Non, Kempel. Il fait un petit branleur du centre de formation. Rudi Völler savait très bien qu'il valait beaucoup sur le marché. Il n'en a eu rien à faire. Il l'a pas gardé. Tu dégages. Et ils l'ont même racheté plus tard quand il était redevenu un joueur entre guillemets.
En France, on fait pas ça. On le laisse tout faire parce qu'il va être vendu. Et les clubs vivent de ça.
Alors les gars, faut qu'on avance.
Le mec fait tout.
J'ai juste un petit tweet de Tres Maria qui lui dit on lui dit à Lionel que Polo considère qu'il y avait faute sur l'Asland.
Ah oui, on en a parlé l'autre soir. T'étais pas là. T'ai défendu, évidemment.
Non, j'ai pas.
On a parlé du fameux match et il fait.
Ouais. Après, il nous a expliqué qu'il y avait pas faute de Schumacher, évidemment. Hein, bon. Il est choqué.
Jusqu'à maintenant, je pensais que tu connaissais un peu le football. Je vous avais fait faire la peur parce qu'il y avait
Polo. Il s'agit de football. Il s'agit d'hommes.
Vous ne parlez que des virgules, en fait.
Alors, deux petites choses pour conclure, Polo. Le patron du Dortmund, a eu cette déclaration hier soir. Il a dit, le PSG, ils ont le traumatisme de United. Pour eux, le monde va s'effondrer s'ils sont éliminés. Du coup, je crois qu'on a maintenant un avantage psychologique. A dit Vatske hier.
C'est tout à fait exact. Et puis derrière, évidemment.
On va parler du PSG dans quelques instants.
Évidemment, Vatske oublie que c'est un club qui est quand même coté en bourse pour aller chercher, pour lever de l'argent, comme on dit. Et il se réfugie, évidemment, derrière le système associatif allemand. Et donc, lorsqu'il dit que le monde va s'écrouler, moi, je de mémoire, la phrase exacte, c'était leur monde va s'écrouler. C'est-à-dire que derrière, ouais. Si tu veux, c'est le.
C'est peut-être ton fantasme, parce que moi, j'ai lu Le Monde.
C'est fort possible.
Polo. Oui, mais je sais que t'aimerais bien que ce soit ça.
La traduction française, mais je voudrais bien retrouver la phrase.
J'ai confiance en Polo sur l'allemand.
Non. Il s'agit pas d'allemand, il s'agit de volonté de comprendre comme ça l'arme.
Moi, je veux revoir la phrase.
Sinon, je sais pas si t'as vu passer la stat. Ça me surprend tellement que j'aimerais bien en être sûr trois fois. Il paraît que Leipzig a couru 124 km.
M'étonne pas.
Ça me semble complètement délirant.
Oui, je te confirme, Daniel.
Ça m'étonne pas.
C'est délirant. 124, c'est délirant.
Et hier, vraiment. Paris, 105. Pour un titre de comparaison.
Mais c'est normal, ils ont fait un match de sénateur. C'est énorme. 124.
Et Koukou était déjà à 6 km à la mi-temps.
Julien, j'ai une question très claire à te poser. Est-ce que hier soir, après la défaite de Liverpool, tu as eu le frère d'un joueur de Liverpool qui a insulté Klopp? Est-ce que tu as eu un autre joueur qui jouait pas, qui a dit moi je voulais jouer, mais on m'a empêché de jouer? Est-ce que tu as eu un gars qui était pas au courant, qui pouvait être suspendu avec un deuxième carton jaune?
Non, on n'a pas eu ça, nous.
Donc, il y a eu tout ça à Paris, et donc on va en parler.
C'est ce que j'ai cru comprendre.
Ça manque de vie chez toi.
Ça manque un petit peu de vie, mais effectivement, mais encore arrivé en Angleterre. Et on en revient effectivement aux attitudes des joueurs français, ou en tout cas en France et à l'étranger. Et à Liverpool, personne ne se permettrait de.
L'interview stratosphérique de Serge Aurier dans France Football mardi.
où il revient sur l'affaire Periscope en disant mais qu'est-ce que j'ai fait? En France, on m'est tombé dessus pour ça. En Angleterre, ça serait pas arrivé. J'ai envie de lui dire, écoute mon vieux, essaye de dire en Angleterre que ton entraîneur est une grosse pipe. J'ai bien envie de voir s'il va rien se passer.
Tu fais pas la moitié de ça.
C'est pour ça qu'il l'a pas fait. Hein.
Non mais lui, il est convaincu dans l'interview que c'est les médias français qui lui ont coupé la tête par rapport à ce qu'il a fait. On est dans le délire le plus complet. Quoi, mais bon.
Merci Polo en tout cas.
Merci à vous les gars.
Et merci Julien également.
Merci.
Bonne soirée.